KEIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.purri@simpatico.ca.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Bonjour à tous. Merci à vous qui nous rejoignez. C'est un moment un peu particulier pour vous comme pour nous. Et oui, la moitié de la population mondiale presque aujourd'hui est confiné. On a donc décidé malgré tout d'échanger ensemble sur l'actualité. Évidemment, l'actualité brûlante du moment, c'est cette crise du coronavirus qui frappe la planète entière. La quasi-totalité des pays à la surface du globe sont désormais concernés. Et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui à mes côtés pour discuter justement des derniers développements de cette crise, le professeur Zahir Amoura, chef de service en médecine interne à la Pitié-Salpêtrière. Merci d'être avec nous. Professeur. Également avec nous ma consoeur de Radio France, Claude Guibal, qui va apparaître, grand reporter à Radio France. Bonjour Claude.
Bonjour.
Et puis mon compère habituel d'une semaine dans le monde, Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine. Bonjour Ziad.
Bonjour à tous.
Et merci donc à vous quatre d'être avec nous. Alors, où en est l'hôpital en France au sortir d'un week-end, on l'imagine, particulièrement brûlant. Professeur Amoura, comment s'est passé ce week-end? Vous-même, dans votre service, vous prenez en charge des patients atteints du Covid-19.
Oui, tout à fait. En fait, on a transformé notre activité, si je puis dire, parce que notre spécialité, c'est plutôt les maladies auto-immunes systémiques. Et en fait, compte tenu de l'affluence des patients, on nous a demandé de décommander les patients pour lesquels il n'y avait pas de prise en charge urgente et de réserver les hospitalisations aux patients qui sont atteints de l'infection Covid-19.
L'hôpital français peut-il faire face et jusqu'à quel point on dit que la France posséderait en tout aujourd'hui 30 000 appareils respiratoires? Quelle est la situation exacte? Est-ce que ce nombre est suffisant, sachant que les malades, dit-on, passent en gros une vingtaine de jours à chaque fois en hospitalisation?
Si on a 30 000 respirateurs et si on a les 30 000 lits, on les a pas actuellement, normalement, les choses doivent se passer correctement. Vous savez qu'en Allemagne, il y a 27 000 lits de réanimation et qu'actuellement, la prise en charge se passe de façon relativement satisfaisante avec une mortalité diminuée. Donc, le boulot d'étranglement actuellement, c'est vraiment le nombre de lits de réanimation, le nombre de lits avec réanimateur. Pour la prise en charge dans les lits de médecine, c'est-à-dire avant que les patients aient une situation critique qui justifie un transfert en réanimation, les choses se passent, en tout cas dans mon hôpital, à la Pitié-Salpêtrière, de façon relativement satisfaisante. On ouvre tous les jours des nouveaux lits de médecine et on arrive à digérer une grande partie de l'affluence des patients aux urgences de l'hôpital.
Aujourd'hui, la France se trouve dans cette situation, on le voit, mais elle n'est pas la seule. Hein. Quand on voit ces chiffres en Italie, en Espagne, aux États-Unis, maintenant un premier pays de la planète frappé en nombre de cas, on se dit qu'on a manqué d'informations depuis le début de cette crise, Claude Guibal.
Des informations, on en avait malgré tout, parce que depuis début janvier, au moins, les informations qui parvenaient de Chine était inquiétante, mais la question c'est comment on les a reçues, ces informations, comment elles ont été anticipées, aussi bien par les pouvoirs publics que par la population elle-même. J'ai le souvenir d'il y a plusieurs semaines déjà, les correspondants de médias français en Italie qui appelaient à des mesures d'urgence en France, et j'ai le sentiment que tout n'a pas forcément été écouté, forcément été entendu.
On a le sentiment que peut-être l'origine, le pays d'où est parti, l'origine de l'épidémie, la Chine, peut-être que là-bas on n'a pas tout dit, c'est votre sentiment à vous ?
Ah ben, en tout cas, les informations qui nous parviennent de Chine aujourd'hui, parce que vous savez que dans quelques jours, il y a en Chine la fête des morts qui aura lieu les 4 et 5 avril. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui se rendent en ce moment dans les crématoriums pour récupérer les cendres des gens qui sont décédés pendant l'épidémie, parce que les cendres, les urnes funéraires n'ont pas été rendues à ce moment-là. Et vous savez que des lanceurs d'alerte, des journalistes ont fait un espèce de décompte un peu macabre ces derniers jours de ces gens qui attendent devant les funérariums, et ils aboutissent à des chiffres qui sont très éloignés de ceux donnés par les autorités chinoises. Les autorités chinoises disent qu'il y a un peu plus de 3400 morts, je crois, liés au Covid-19. Les lanceurs d'alerte, eux, parlent plusieurs dizaines de milliers. On dit jusqu'à plus de 97 000 morts dans cette crise, et il est évident que beaucoup d'informations venant de Chine nous manquent.
Oui, des informations de Chine qui nous manquent. Est-ce que c'est votre sentiment à vous aussi, Ziad? Il y a des angles morts aujourd'hui dans l'actualité internationale, et notamment dans ces bilans qui nous sont rapportés par différents pays.
Il y a des multiples angles morts. D'abord parce qu'on, sans être médecin, on sait qu'il y a des cas asymptomatiques, des cas qui ne présentent pas de symptômes au début ou pendant un certain temps. Donc il y a des gens qui tombent malades, on ne le sait pas. Donc ça dépend, j'allais dire, de la précision des appareils épidémiologiques de surveillance. Donc on n'en sait rien. Et puis on sait que la Chine n'est pas forcément le pays le plus transparent, et que peut-être que pour eux, c'était une affaire qui était tout autant politique que sanitaire. Donc on n'aura probablement jamais les vrais chiffres de la Chine. Et c'est peut-être aussi notre propre regard à nous de société occidentale qui a fait qu'on a eu un temps de retard à comprendre que ça pouvait venir vers nous. Et en fait, ce temps de retard, il existe partout. Il existe aujourd'hui un peu en Afrique, il existe aujourd'hui sur la périphérie sud de l'Asie du Sud-Est. On n'arrive pas à appréhender ce phénomène qui vient. Donc on se dit que finalement, ça va peut-être passer à côté, mais en réalité, ça passe pas à côté.
Professeur Zahir Amoura, vous-même, hein, vous n'êtes pas virologue ou épidémiologiste, mais vous avez le sentiment qu'il nous manque des données de la part des autorités médicales chinoises, par exemple.
La question que vous avez soulevée depuis quelques instants, c'est une question importante, c'est-à-dire est-ce que les données qui nous ont été transmises correspondent à la réalité ou pas ? Ça participe de manière relativement claire à l'alerte, à la réaction que les gens ont pu avoir ou ne pas avoir dans les pays occidentaux, et je crois que le commentaire de Claude Guibal est tout à fait justifié. Si on a eu un nombre de décès qui est supérieur, ce qui n'est pas du tout impossible sur les données qu'on a aujourd'hui avec les urnes funéraires et les queues devant les crématoriums, c'est vrai que ça a eu tendance à minimiser l'impact de la crise. Donc la véracité, la qualité des données, c'est quand même un élément essentiel sur le plan épidémiologique.
Alors en tout cas, un Français hein, aujourd'hui fait parler de lui à travers le monde, c'est cet homme, Didier Raoult, au point d'ailleurs hein, de faire la une de Paris Match. Un infectiologue qui fait la une de Paris Match, c'est du jamais vu. Vous comprenez, vous, cet engouement, Zahir Amoura, vous comprenez les propos qu'a tenus Didier Raoult au pic de cette crise? Est-ce qu'il a eu raison de secouer le cocotier d'une certaine manière pour faire bouger les pouvoirs publics?
Bah, écoutez, c'est compliqué d'avoir un jugement définitif sur la situation parce que il y a au moins deux niveaux de réponse. Le premier niveau, c'est un médecin confronté à une pathologie, c'est un de ses patients. Selon le serment d'Hippocrate, il doit essayer de donner tous les traitements qui sont à sa disposition. Ça, moi, je suis le professeur Raoult sur cette attitude. Bien sûr, il faut essayer d'avoir des réponses qui doivent être parfaites sur le plan méthodologique. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire sur votre antenne que, de ce point de vue-là, l'étude qui avait été publiée, la première comme la deuxième, était critiquable, ce qui est la règle en médecine. On doit accepter les critiques du monde scientifique. Devoir absolument utiliser des méthodes parfaites sur le plan de la recherche clinique. Nous, on a souvent une situation qui est différente. Quand on a des maladies rares, par exemple, on va traiter des patients qui, sans avoir des certitudes épidémiologiques, des études très fortes, des forces de preuve pas forcément très fortes, mais parce qu'on n'a pas le choix et qu'on sait qu'on ne disposera jamais de la réponse méthodologique parfaite. Hein, quand la maladie elle est très rare, on ne pourra jamais faire des essais randomisés. Là, on est dans une situation différente. Il y a quand même malheureusement beaucoup de patients. Et donc, on doit s'efforcer d'avoir une réponse qui est une réponse méthodologique parfaite. Donc, à mon avis, et c'est ce qui est en cours actuellement, il faut inciter les patients malades à participer aux essais cliniques qui sont en cours pour qu'on sache si oui ou non l'hydroxychloroquine est efficace. Et comme vous le savez, ça a été dit tout à l'heure, l'infection par le Covid, heureusement, guérit souvent seule, et donc c'est très difficile de juger de l'impact ou de l'efficacité d'une thérapeutique si on n'a pas un bras contrôle. Hein, c'est-à-dire que si vous avez une maladie qui guérit seule, vous pouvez faire n'importe quoi pendant ce temps-là, prendre de la poudre de perlimpinpin. Au bout de 7 à 10 jours, vous allez avoir un pourcentage important de patients qui ont guéri, mais c'est pas la poudre de perlimpinpin qui vous aura apporté la guérison. Donc, sur le plan méthodologique, c'est quelque chose qui est essentiel. Après, il y a toute une partie communication où moi, je dois dire que j'ai beaucoup de mal avec. Là, on n'est pas du tout dans l'attitude médicale ou dans l'attitude scientifique classique, quoi.
Vous comprenez, vous, Ziad Imam, la réaction des pouvoirs publics qui, dans un premier temps, ont fait la sourde oreille d'une certaine manière à ce bruit hein, qui montait de l'opinion publique, en tout cas abondamment relayé par les réseaux sociaux, avant de dire que l'hydroxychloroquine pouvait être prescrite, mais uniquement dans les cas graves, et puis maintenant, finalement, par décret, d'en autoriser l'administration hors médecine de ville.
J'ai pas de vérité là-dessus et je pense que ceux qui ont des vérités toutes faites, comme disait notre ami le professeur, il y a des tests, il faut mesurer l'efficacité de ce produit. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis un petit peu surpris aussi par le fait que on soit tous, d'une manière ou d'une autre, par anxiété aussi, parce qu'on est dépassé, on soit tous médecins, on est tous des opinions là-dessus. Je me dis que chacun devrait être dans son rôle. La médecine doit être capable de proposer des solutions à un temps raisonnable aussi. C'est une maladie nouvelle qu'on ne connaît pas. Le politique doit prendre ses décisions et il faut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne en symbiose pour que la confiance reste. Parce que si on perd la confiance, nous, citoyens, envers le politique ou la médecine, si les théories du complot se multiplient sur je ne sais quelle manipulation pour je ne sais quelle sombre dessin, c'est catastrophique. Donc je pense que chacun doit vraiment respecter son rôle en ce moment et qu'il faut qu'on se fasse un minimum confiance dans quelque chose qui est quand même une véritable crise sanitaire et dont on n'a pas mesuré les effets au début, dont on mesure les effets maintenant, et on n'est pas les seuls. Regardez les États-Unis, immense puissance. On est dans une situation catastrophique, en particulier dans une ville comme New York ou dans une ville comme Los Angeles. Donc, je pense qu'un peu de modestie, un peu de confiance vis-à-vis de tout le monde et un peu de serrer les rangs en attendant d'avoir des vraies réponses scientifiques.
Claude Guibal, vous avez compris la position des pouvoirs publics vis-à-vis de l'hydroxychloroquine et puis évidemment hein, la polémique, parce que c'en est bien une aujourd'hui, enclenchée par les déclarations du professeur Raoult.
Je trouve que c'est extrêmement difficile de s'exprimer sur ce sujet, une fois de plus. Et comme le disait Ziad Limam, on entend beaucoup de choses en ce moment, et je pense que là-dessus, sur ce sujet-là, chacun a sa place. Moi, je me permettrai pas de juger des bénéfices de ce médicament, et encore moins de la réponse des pouvoirs publics, puisque je ne sais pas exactement la nature de ce que disent les scientifiques, le conseil scientifique au gouvernement.
Mais vous trouvez la position des pouvoirs publics lisible, Claude ?
Non, le problème, c'est effectivement ça, c'est la lisibilité du discours politique et du discours des pouvoirs publics. Ziad Limam le soulignait, tout est une question de confiance. Et évidemment, on avance un petit peu au doigt mouillé dans cette crise, puisque chaque jour amène des vérités nouvelles, on découvre des choses, donc c'est effectivement très compliqué de pouvoir anticiper un véritable discours construit. En attendant, ce qui compte, c'est de pouvoir dire « je ne sais pas » quand on ne sait pas, de ne pas avoir affirmé quelque chose et son contraire le lendemain. Je pense qu'il faudrait avoir un peu plus d'humilité, effectivement, dans ce qui a été fait, mis en place dans la réponse de certains pays qui avaient quelques semaines d'avance sur nous, sur l'épidémie. On voit que ce qui a pu aider dans certains pays, c'est justement ce rapport de confiance, en fait, de transparence sur les données qui étaient fournies. Aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé en Chine avec, dès le départ, ce déni de vérité sur la gravité des cas. On l'a vu aussi en Iran avec ce début d'épidémie dans la ville de Qom qui a été masqué, qui n'a pas été correctement informé, renseigné par les autorités iraniennes, et tout cela, ça conduit à davantage de propagation du virus, parce que une fois de plus, ça nous oblige à une question de confiance et de penser à l'autre. C'est-à-dire que si on veut se protéger de soi, il faut protéger l'autre, et donc à ce moment-là, il faut être dans une politique de vérité.
L'hydroxychloroquine hein, qui est utilisée dans le traitement d'autres affections, hein, puisque sa vocation première, c'est un antipaludéen de synthèse qui est utilisé notamment dans le traitement du lupus, qui est une maladie que vous connaissez bien puisque vous la soignez indirectement au sein de vos services, professeur Amoura. Est-ce que vous comprenez donc qu'on en restreigne l'accès aujourd'hui, notamment en médecine de ville, avec des risques, comme on l'a vu ces derniers jours, en cas d'automédication sur certains patients?
Oui, je comprends tout à fait. La première conséquence de l'engouement un petit peu irraisonné pour l'utilisation de l'hydroxychloroquine comme ça, de façon sans preuve, ça a été d'entraîner une pénurie et de diminuer l'accès à ce médicament dans les maladies que vous venez de citer, comme le lupus. Et nos patients nous ont alertés et on a reçu des dizaines et des dizaines d'emails de coups de téléphone tous les jours. Parce que les malades lupiques, pour qui il y a une indication qui est clairement établie, ne trouvaient plus de plaquénil dans les pharmacies. Là, actuellement, ce qui se passait jusqu'au décret de la semaine dernière, en fait, c'est que le plaquénil était pris de manière complètement injustifiée. Et donc, d'un seul coup, on se retrouvait avec un médicament qui était donné la plupart du temps à 2 comprimés par jour à des gens jeunes. C'est l'âge moyen des femmes qui ont un lupus, c'est entre 30 et 40 ans. Donc on se retrouve avec un médicament qui va être donné à des milliers, des centaines de milliers, voire plusieurs millions de personnes en France, et donc est également donné à des doses plus fortes, puisque dans l'étude de Raoult, c'est un médicament qui est donné à 3 comprimés par jour, associé avec un autre médicament, l'azithromycine, qui peut potentialiser les effets indésirables. Donc d'un seul coup, vous élargissez le nombre de personnes susceptibles de prendre ce traitement, vous augmentez la dose, vous ajoutez un médicament potentiellement à risque d'interaction, et donc on se retrouve avec des effets indésirables qui n'étaient pas décrits, qui étaient connus quand on utilisait l'hydroxychloroquine à forte dose, mais qu'on rapportait très peu. on donne le médicament pendant des années à nos malades atteints de lupus. Très schématiquement, les événements aigus qu'on voit actuellement, les troubles du rythme cardiaque, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais là, si vous élargissez l'indication et qu'il y a beaucoup de gens de tous âges avec des pathologies sous-jacentes, des gens qui vont avoir des pathologies cardiaques par exemple, ou des contre-indications éventuelles au traitement qui le prennent quand même, on risque d'avoir des effets indésirables qu'on n'observait pas actuellement en nombre assez grand. De ce fait-là, c'est tout à fait raisonnable de ne pas accepter que les médecins et les gens en ville puissent avoir le médicament. Donc le médicament, il est restreint à une utilisation qui est hospitalière dans des indications très précises et je crois que c'est une très bonne chose.
CIUT 89.5 Toronto.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann la Thérapeute a déjà fait ses preuves. Yann la Thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook Noir et Psy avec Yann la Thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Chaud. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la Thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Chaud et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Du 1er au 29 mars 2020, rapprochons-nous avec CUT 89,5 FM qui est sur les 5 continents. Du 1er au 29 mars 2020, le mois de la francophonie et les 50 ans de la francophonie internationale, et ça se fête. Suivez nos coups de cœur, les rendez-vous de nos partenaires. Visitez notre site et celui de la Semaine de la francophonie de Toronto, popourrichaud.com ou allez sur semainefrancophonietoronto.com. Cocktails, concerts, rencontres littéraires, conférences, jeux concours, dictées, soirées des talents, concours oratoires, et le tout assaisonné avec une bonne dose d'humour. Du 1er au 29 mars 2020, CUTFM et RFI sont sur les 5 continents avec couscous, baguettes, croissants et beaucoup de musique. Ces émissions sont réalisées en partenariat avec le CREFO, OISI, le département d'études langagières, le campus de l'université de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'université de Waterloo, la société de la francophonie manitobaine, les éditions Prise de Parole, le salon du livre, le Niagara avec Sophie Franc, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Union des Français de l'étranger à Toronto, Educ Nation Consulting Inc. et Noir et Psy. Popourri Chaud, chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime. Dimanche, soyez de la fête avec Popourri Chaud et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Adair, je vous invite à Potpourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le Département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions Prise de parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Potpourri Show en nous envoyant un message à potpourri@cut.fm ou visitez notre site web potpourrishow.com. Potpourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Décryptage. Anne Contner.
Bonsoir à tous. Nous allons essayer aujourd'hui de nous projeter dans le monde d'après. Une fois que la pandémie de coronavirus sera terminée, une fois que les mesures de confinement, les restrictions, les précautions seront levées, une fois que l'urgence sera passée. Des associations de défense de l'environnement aux partis politiques, des chercheurs, aux universitaires, aux dirigeants, des économistes, aux militants des droits de l'homme, des voix promettent déjà que rien ne sera plus comme avant, ou le souhaitent du moins. Est-ce le cas? Et si oui, peut-on déjà commencer à imaginer ce monde d'après? À quoi est-ce qu'il pourrait ressembler? On en parle pendant les 20 prochaines minutes avec mes invités. Bienvenue. Deux philosophes pour nous éclairer. Bonsoir Claire Marin.
Bonsoir.
Vous dirigez le séminaire international d'études sur le soin à l'École normale supérieure et vous êtes l'auteur du livre Rupture, paru aux éditions de l'Observatoire en 2018. Nous sommes aussi en ligne par téléphone avec Cynthia Fleury. Bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, psychanalyste, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers et titulaire de la chaire Humanité et Santé. Merci à toutes les deux d'être avec nous pour parler donc de ce que pourrait être le monde d'après coronavirus. Claire Marin, qu'est-ce que cette maladie, qu'est-ce que l'irruption de cette maladie change dans notre rapport aux autres et notamment le phénomène de contagion contre lequel tous les États se mobilisent en ce moment?
Ben, je crois que ce qu'on éprouve tous tout d'un coup, c'est notre vulnérabilité, celle que certains d'entre nous mettaient entre parenthèses dans leur vie active. Et on se découvre tous malades en puissance, qui est un constat toujours très désagréable et inquiétant. Et puis, on se rend compte aussi à quel point on est interdépendant, à quel point on a besoin des autres. Et on réalise quelles sont toutes ces vies invisibles qui sont nécessaires à notre bien-être, notre santé, notre confort.
Et la contagion, l'inquiétude vis-à-vis de la maladie, est-ce qu'elle change le rapport à ceux qui nous entourent?
Bien sûr, elle change le rapport à ceux qui nous entourent de deux manières. D'abord parce qu'on est inquiet pour ceux à qui on tient, et puis évidemment inquiet pour soi. Il y a cette angoisse de la mort qui surgit de manière assez nouvelle dans nos sociétés privilégiées. Et puis une peur de l'autre qui elle aussi est un peu nouvelle puisqu'elle prenait jusqu'à présent des formes politiques, des formes communautaires, des formes ethniques ou religieuses. Mais là, celui qui peut me nuire est indéterminé, donc n'importe qui est potentiellement un danger, une menace pour moi.
Potentiellement un danger et chacun est potentiellement une victime aussi.
Chacun est potentiellement à la fois une victime et une menace pour l'autre. Et c'est cette ambivalence au sein d'un même individu qui est aussi difficile à se représenter. Je suis autant menacée que menaçant. Je ne sais pas de quel côté je me situe. Et je peux être les deux en même temps.
À un niveau plus large, Cynthia Fleury, au niveau d'un pays, du monde même, qu'est-ce que cette crise révèle du monde dans lequel on vit?
Si on veut filer la métaphore de la vulnérabilité, il y a la vulnérabilité ontologique, effectivement celle de la maladie dont vient de parler Claire Marin, et puis il y a celle qui est sociale, systémique, parce que c'est ça hein, qui est en jeu aujourd'hui. Je rappelle quand même que la létalité du virus est très faible, et ce qui vient se dire, c'est les grandes failles systémiques, le fait que parce que nous avons le système qui est le nôtre, mondialisé, qui a produit des dépendances délirantes, nous ne sommes plus capables de faire face tout d'un coup à un événement qui vient faire dysfonctionner de manière grandiose ce système. Donc ça, c'est la première leçon forte, c'est que cette illusion de la toute-puissance, de la mondialisation qui ne veut aucune digue, qui ne veut pas de digue naturelle, qui ne veut pas de digue politique dans le sens de réglementation, qui ne veut pas de digue économique dans le sens aussi de règles et de préservation des biens non marchands tels que la santé, etc., etc. Tout ça explose et produit l'exact contraire, c'est-à-dire le refus de la limite provoque l'ultra-limite, c'est-à-dire le confinement pour tous. Et ce retour d'expérience, j'espère qu'on va le tirer parce que d'abord, de façon positive en se disant que les états de droit sont sans doute, en tout cas pour ma part, les mieux armés pour faire face à une gestion qui respecte les droits le plus possible de la pandémie. Et on va avoir des retours d'expérience par rapport à cette crise. Et l'enjeu, alors bien évidemment, ça va être de produire un suivi démocratique de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, parce que c'est, on voit très bien aussi notre facilité, si j'ose dire, à ajuster nos droits en fonction de nos moyens. Et ça, c'est pas
effectivement, on voit pour l'instant, que les mesures de confinement, les restrictions qui ont été imposées pour limiter la propagation du virus semblent assez bien accepté, mais on entend quand même de plus en plus des inquiétudes à propos de cet état d'urgence dont vous parliez. Claire Marin, est-ce qu'il existe, selon vous, un risque que la situation d'exception perdure, qu'on se retrouve dans une sorte d'état d'urgence permanent ?
Bien sûr, c'est ce à quoi il faudrait être très attentif, c'est que cette situation d'exception ne devienne pas une nouvelle normalité. Et ici, on a un risque évident, effectivement, de dérive. Et on voit déjà comment certaines mesures qui concernent le nombre d'heures de travail, les jours travaillés, etc., suscitent des inquiétudes très fortes.
Cynthia Fleury, est-ce que c'est quelque chose qui, à votre sens, pourrait être accepté ? Est-ce qu'aujourd'hui, la population considère finalement que la situation sanitaire prime sur tout le reste et que ça,
oui,
pourrait durer plusieurs mois ?
Ah, si vous voulez, le premier réflexe, on a un réflexe d'autoconservation et on a tendance à, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose, à préserver la vie et soudainement à se dessaisir assez facilement de nos libertés individuelles. Et puis dans un deuxième temps, j'espère qu'un réveil va se mettre en place. On voit qu'une mission, pas encore une commission d'enquête, mais une mission parlementaire va faire son travail de suivi démocratique précisément de la manière dont est tenue cet état d'urgence sanitaire, mais il faut certainement pas laisser cela simplement au Parlement, mais il faut que la société civile se saisisse de cette obligation de dire, écoutez, c'est une gestion démocratique de la pandémie. Et donc, nécessairement, ça veut dire que cet état d'exception, il doit respecter toute une série de principes qui sont le caractère non déraisonnable, le caractère proportionnel, la vérité temporaire de la chose, et puis la responsabilité, le fait de rendre des comptes. Je dis ça parce qu'on a une petite musique qui monte, et puis de la part des plus hautes instances de l'État, et qui dit pas de critique, c'est pas le moment. Certes, mais bien évidemment que le suivi démocratique de la manière dont on fait l'état d'urgence, si, c'est le moment.
Claire Marin, cette crise, elle sert aussi d'alerte sur le rôle des services publics, notamment la santé. En France, par exemple, ça fait des mois et des mois que le gouvernement était resté très ferme face à la mobilisation de l'hôpital public, à la contestation, et on entend bien, là, récemment, dans les discours du président, par exemple, que la tonalité est en train de changer.
Oui, j'espère qu'il change. C'est-à-dire, le discours change, il faudra que ça soit suivi assez rapidement, et il faudrait que ce soit suivi dès maintenant d'actes significatifs. Pour le moment, ce qui a été alloué par le gouvernement à la santé semble relativement dérisoire par rapport à l'ensemble des sommes qui ont été consacrée à la situation de crise. Je trouve que c'est déjà très clairement insuffisant. Et mon inquiétude concerne la suite l'évolution du système de santé, parce que parallèlement on voit comment des démarches de médecine très libérale se mettent en place sur le traitement des données des patients. Donc ce discours pour le moment il est assez peu suivi d'actes, alors que il devrait être déjà bien ancré dans la réalité critique qui est celle du système hospitalier en ce moment, et me semble pas tout à fait à la hauteur des enjeux de cette crise.
Cynthia Fleury, est-ce qu'on peut pousser la réflexion encore un peu plus loin et dire que c'est peut-être tout un système de valeurs qui est en train de changer et que la situation actuelle mettrait en avant l'importance, c'est ce qu'on a entendu dans beaucoup de discours de la part de dirigeants, mettrait en avant l'importance du soin, le rôle de l'État, l'utilité de métiers qui sont peu considérés et peu rémunérés mais essentiels?
Alors la situation, elle a clairement mis en avant la nécessité effectivement du soin de ces métiers, ce qui tient là aujourd'hui, quand prenons simplement le cas de la France, mais c'est dans tous les pays, ce qui tient, ce sont les hommes, ce sont les compétences, ce sont les services publics, c'est ça qui tient, hein, fondamentalement. Alors que même nous sortons, vous l'avez rappelé, d'une crise totalement inédite de ces mêmes services. Donc on voit bien que l'État social et la vérité même de l'état de droit est que l'état social demain est la seule manière d'affronter les failles systémiques qui vont être devant nous. Ça va être des pandémies, mais ça va être autre chose. Ça va être des méga-feux, ça va être des catastrophes naturelles, climatiques, ça va être des questions liées au terrorisme. Enfin, donc on voit qu'il y a une nécessité d'un tournant social-démocrate venant repenser une sorte de réautonomisation des circuits d'approvisionnement. Cette réflexion, elle doit être nationale, international, etc. Il doit y avoir des fonds d'anticipation communs, des plans massifs d'investissement, etc. Ça, c'est la vision idéale de la chose. Après, comment cette thèse, elle est là, elle se voit, elle est posée par les sciences humaines et sociales depuis des décennies. En revanche, il y a une pression néolibérale qui existait avant la crise et qui, bien évidemment, ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et donc, comment nous allons porter une pression sur nos dirigeants et sur nos élites économiques pour que, précisément, ce tournant sémantique que tout le monde a noté devienne un tournant politique, ça, c'est l'enjeu demain.
Justement, Claire Marin, est-ce que la situation que nous sommes en train de vivre en France et dans le monde entier, est-ce qu'il faut la voir comme une parenthèse ou comme une rupture?
Le risque, quand on est dans une situation de crise, c'est effectivement de le vivre comme une parenthèse et de la refermer le plus vite possible, avec cette espèce d'espoir qu'on a toujours de revenir à la vie d'avant, qui est souvent pensée comme la vie normale. Alors qu'on pourrait se dire qu'au contraire, c'était un moyen de réaliser à quel point la vie d'avant était anormale. Dans la maladie, on sait très bien qu'on ne revient jamais à l'état antérieur, que la maladie a modifié l'organisme et que l'organisme crée une nouvelle norme, mais qu'elle n'est pas la norme d'avant la maladie. Sans doute qu'on peut étendre cette grille de lecture à la société, que dans le meilleur des cas, que cette crise mondiale nous permet de réaliser, c'est la fébrilité de nos vies, les fausses urgences, la surconsommation, le délire de nos déplacements. Ça nous invite aussi à repenser les hiérarchies dans la valeur des métiers, des engagements des uns et des autres, et voir comment ces vies invisibles dont on parlait tout à l'heure ont été le plus souvent les moins considérées, les moins rétribuées. Et puis s'interroge aussi d'autres problématiques, notamment la manière dont les uns et les autres sont logés. On voit bien comment le confinement est vécu très différemment selon les individus. Et on prend conscience du rapport à l'espace aussi dans l'équilibre psychique des sujets. Donc dans le meilleur des cas, c'est une rupture qui nous amène à repenser assez radicalement les priorités et les enjeux de... La suite ou de l'après-crise.
Dans l'hypothèse d'une rupture, est-ce qu'il y aurait forcément, Cynthia Fleury, un changement important juste après cette pandémie, ou est-ce qu'on pourrait assister au contraire à une forme d'immobilisme après le choc?
Ah, si vous voulez, c'est clair que l'aventure du confinement, elle va aller au-delà de la période du dit confinement. Je dis ça parce que la levée, d'abord, elle va être progressive. Donc, il ne va pas se passer tout d'un coup noir-blanc. C'est quelque chose de beaucoup plus poreux. Et oui, c'est pas du tout impossible qu'il y ait une forme même de sidération, de la même sidération qu'on a eue dans l'entrée en confinement. On va avoir une forme de sidération dans le déconfinement. Et c'est pas impossible d'avoir comme ça, individuellement, les uns et les autres, une espèce d'attitude attentiste. Et ça sera le danger, parce que c'est tout à fait compréhensible psychiquement parlant, parce que c'est tout simplement la manière dont nous gérons l'incertitude. C'est pas simple, hein. En plus, il y a une détresse socio-économique qui va grimper devant nous. Mais l'enjeu, c'est d'enclencher un système résilient. Et enclencher un système résilient, c'est de dépasser nécessairement l'attentisme, c'est d'entrer dans des problématiques d'action, c'est de retrouver le sens, la motivation, etc., etc.
Et donc, et comment on dépasse justement cette phase de sidération, Cynthia Fleury?
Ça va être un travail de projection, de sens, de valeur. Je dirais que l'aspect positif, là, c'est que tout de même, il se joue à des comportements collectifs, il se joue la nécessité de la solidarité. Tout ça, ça va sans doute continuer de poser sa petite musique, si vous voulez. Mais encore une fois, ça va être une lutte. Ça va être une lutte. Je ne pense absolument pas, si vous voulez, que le rapport à la solidarité qui se joue aujourd'hui et qui est absolument qui semble spontanée, naturelle, non, il va avoir face à lui demain une éventuelle austérité, un sentiment d'hostilité parce que les affaires ne vont pas tout de suite reprendre comme il faudrait qu'elles reprennent, etc., etc. Et donc vous allez avoir une phase encore une fois de sidération. Et ben donc c'est à nous tous, les médias, les enseignants, les thérapeutes, tous ceux qui travaillons, de nous dire non, nous voulons autre chose et nous voulons que ce tournant, encore une fois, social-démocrate se fasse. Et ça s'appelle une mobilisation citoyenne quand même.
Claire Marin, est-ce qu'il existe des exemples de grandes épidémies, de pandémies qui ont radicalement changé les systèmes et les modes de vie dans le passé?
Alors sur ce point, je ne saurais pas vous répondre. Je ne suis pas historienne de la santé. Je ne saurais pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ici, il faudra le repenser dans un contexte mondial qui est très différent. C'est sans doute la première fois qu'une épidémie se vit de manière presque synchrone par la grande majorité de la population. Et ça aussi, évidemment, ça va changer complètement la manière d'envisager l'après.
Avec des situations qui sont semblables, vous le disiez, le monde vit la crise quasiment au même moment ou avec quelques jours, quelques semaines de décalage. Plusieurs partis politiques, des associations ont pris la parole en France par exemple, mais aussi ailleurs, pour dénoncer le néolibéralisme, un capitalisme sans limite, pour souligner aussi très souvent la nécessité de mieux protéger la planète et l'environnement. Est-ce que ces messages peuvent être entendus selon vous, Claire Marin?
Alors, qui sont semblables, mais qui sont aussi extrêmement différents. Quand on voit les Indiens qui fuient les grandes villes pour retourner vers les campagnes, c'est parce qu'ils sont affamés. Donc, il y a quand même des différences notables d'un continent à l'autre et d'un pays à l'autre. L'espoir serait effectivement, comme vous venez de le dire, que ça nous engage vers d'autres types de priorités et que on ait une prise de conscience assez forte du fait de cette expérience. Je pense que là aussi, il faut différencier les générations et qu'une grande inconnue sera sans doute de savoir ce que les plus jeunes feront de cette expérience qui est quand même extrêmement traumatisante et la manière dont ça pourra orienter à l'avenir leur conscience politique. Je crois qu'il y avait des mouvements qui s'étaient engagés dans la jeunesse mondiale autour de ces questions avant la crise épidémique et que peut-être cette expérience renforcera leur mobilisation et il faudrait que les adultes soient un peu plus conscients de la nécessité de ce changement-là. Mais sur ce point, je reste assez assez perplexe. Je crains malheureusement qu'on soit repris par la logique antérieure et qu'on veuille malgré tout revenir au monde d'avant, qui était celui plutôt de l'accélération et de la frénésie.
Cynthia Fleury, il nous reste quelques secondes. Quel rôle joue la peur dans toutes ces réflexions? Est-ce qu'elle est un outil positif ou au contraire est-ce qu'elle bloque? En quelques secondes.
En quelques secondes, les deux, mon capitaine, elle est dans un premier temps, bien évidemment, un élément essentiel pour conscientiser et pour comprendre le principe de réalité qui se joue, hein, d'avoir un rapport avec le réel de la mort. Et puis, bien évidemment, si la peur devient, en revanche, panique, elle produit de la paralysie, et elle est contre-productive et elle ne permet plus le mouvement. Donc, tout l'enjeu,
et dans ce
c'est
cas-là,
d'avoir
c'est
peur,
l'immobilisme qui domine. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission, Cynthia Fleury et Claire Marin, philosophe, toutes les deux. Merci aussi à toute l'équipe de Décryptage. Restez à l'écoute de RFI dans un instant, notre rendez-vous d'information sur le coronavirus.
Mama isa pa facil direte a kaila. Et nous bien obligé, sinon nous ke paye. Y ta pa ka feje, virus pa même parler. Vous ete confiné, sinon ke tombe. Ou fite o chipe, pa laisse ko aller. Téléphone et famille, parler plus en mini. Si ça arrive aujourd'hui, c'est pour nous prendre conscience. Qui voit que le blanc qui jaune,
virus n'a pas qu'à choisir. Oui, c'est lui. Covid là, pas quitter Isa la paix. Oui, c'est lui.
C'est corona qui fait la loi. Ou pas ni droit serrer les doigts. Manger et puis des trois pas là. Pandémie en capété froid. Yo dit chinois qui crée ça. Nous pas connaître vérité. Et corona qui fait des gars.
Covid. Ou j'ai fait trop des gars. Covid. Arrêtez tout ça. Covid, ou sans mauvais soldat, Covid, c'est passé ici, Covid-19, coronavirus, Covid-19, coronavirus.
Pour y pas trapper, restez confiné.
Faut pas quitter trapper.
Bref, dites pays, si bon on bosse.
Faut pas quitter trapper.
Lavez la main, lavez bouchou, lavez des pieds.
Faut pas quitter trapper.
Pas quitter trapper.
Wesh.
Mama il a tout GCG, mais t'as la page. Prends ça au sérieux, pas ni la fête là.
descend pour qu'à faire dehors à rentrer.
Attention,
virus pas qu'à chercher mon pour tuer.
Précaution,
sous pas ton aïe de rentrer.
Attention,
virus pas qu'à chercher mon pour frapper. Alors rentrer. Travailler en force pour les soignants, pour la police, pompiers et travailleurs qui obligent à aller travailler pour nous manger, pour soigner nous, veiller sur nous, à confiner, à confiner, à confiner, mettre cailloux, à confiner.
Maman, là c'est Nestor à zéro. Anti-message, ma cabrée basote. COVID-19, c'est pas la fête. Ça a tout le monde qu'on mouche tout partout. Donc, tout le monde concerné, nous tous concernés, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, Haïti, le monde entier. Donc, si vous n'avez pas besoin de sortir, pas chercher pièce raison inutile pour sortir, pour mettre la vie en danger, et puis mettre personnel soignant en danger, parce que ça va être. Retirez les autres.
Shut the door!
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5, Toronto.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur France24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Banque Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Banque vous accompagne. Sounou Banque, avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous et merci. Merci aux soignants, aux infirmières, aux médecins, aux paramédicaux, à toutes celles et ceux qui travaillent pour la communauté en cette période de crise sanitaire, employés des commerces, des services de nettoyage, des transports, celles et ceux dont la profession est indispensable à l'activité, à la vie quotidienne et aux soins, alors que vous le savez, pour la grande majorité de la population aujourd'hui, le quotidien se passe entre quatre murs dans 80 pays de la planète. Le confinement pour les enfants, l'école à la maison, pour certains parents, le télétravail est pour tous, des sorties réduites au strict minimum. Alors cela peut faire sourire avec un brin de nostalgie, celles et ceux qui, à la fin du week-end, se plaignaient d'avoir trop peu de temps à consacrer à leur famille, à leur entourage. Car du temps, désormais, on en a. En cette période de pandémie, les bouleversements touchent tout le monde dans le quotidien, dans les actes les plus anodins. Les horaires, les loisirs, les habitudes ont été balayés en l'espace de quelques heures. Et le pays, mais surtout les individus, ont dû s'adapter avec plus ou moins de facilité, avec plus ou moins de souffrance, d'inventivité et de patience. Alors si certaines anecdotes prêtent à rire, d'autres beaucoup moins, puisque ce confinement a également pour effet d'exacerber certaines tensions, certaines violences, certaines détresses, comme en témoignent les alertes au sujet des violences intrafamiliales, qui viennent d'ailleurs de pousser les autorités françaises à lancer un nouveau numéro pour avertir les forces de l'ordre en adressant un SMS au 114, message d'urgence pour éviter qu'à cette période de crise sanitaire ne s'ajoute pas l'impunité des tyrans domestiques. Le confinement, cohabitation familiale, organisation bouleversée, des témoignages et des conseils pour mieux surmonter cette expérience déstabilisante. Pour en parler avec nous, docteur Lélia Benoît, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre à la maison de Solène Hôpital Cochin, chercheur à l'INSERM. Également avec nous, Anne-Victoire Rousselet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute, spécialiste en thérapie comportementale et cognitive au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. En fin d'émission, nous retrouverons le témoignage du docteur Isabelle Marin. Elle est médecin retraitée, elle coordonne l'équipe de soutien malade famille du Covid-19 au sein de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis, où elle exerçait il y a encore 6 mois au sein du service de soins palliatifs. Rendre service, écouter, accompagner, plus que jamais, c'est primordial.
Priorité santé sur RFI.
Et une nouvelle fois au cours de cette émission, nous allons donner une large place aux témoignages, des expériences concrètes, des récits de vie, car ce que nous sommes chacune et chacun en train de vivre est totalement inédit, un événement qui impacte la planète presque entière, comme nous le soulignons chaque jour dans cette émission en termes de santé. Mais cette pandémie, elle a aussi changé la donne à la maison, au sein des familles, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Docteur Lélia Benoît, alors il y a d'un côté la poursuite de votre exercice avec des adolescents en difficulté que vous prenez en charge, et aujourd'hui, on comprend un petit peu, on essaye de comprendre pour tout le monde ce qui se passe face à une situation, on l'a dit, hein, extraordinaire, compte tenu du caractère inédit de la pandémie, du confinement aussi qui l'accompagne. Comment est-ce qu'on fait pour analyser? Comment est-ce qu'on fait pour trouver les ressources donc d'analyse et le recul indispensable quand on est soignant, quand on est expert?
Alors, je pense que l'important, c'est de rester au contact des familles et des jeunes que l'on suit. Donc, on a mis très vite en place à la Maison de Solène des vidéoconsultations. Donc, on apprend chaque jour avec les jeunes que l'on voit en consultation à distance, leurs parents, pour voir comment ils s'adaptent. Et avec eux, on apprend des conseils, on comprend comment les aider.
Alors, justement, docteur Benoît, il y a ces familles, on va en reparler dans quelques instants, qui étaient d'ores et déjà traitées. Mais il y a aussi maintenant des sentiments de détresse psychique au sein de familles qu'on ne suivait pas parce qu'il y a cette déstabilisation. Est-ce qu'on est, on peut dire déjà, dans une problématique de santé mentale ou on est né encore dans l'émotionnel?
Alors, chaque cas est différent, donc tout dépendra des cas, mais effectivement, nous avons des appels de familles qui jusque-là n'avaient pas consulté parce que le confinement vient les déstabiliser. Parfois, il y avait déjà des tensions avant, mais qui tenaient bon, un certain équilibre, et le confinement vient bouleverser l'équilibre, et les tensions se révèlent, effectivement.
Anne-Victoire Rousselet, même question. Cette situation, vous la vivez de l'intérieur, en même temps, vous l'observez. Mmh. On peut bien sûr retenir des anecdotes, des conseils simples aussi, on ne va pas se priver d'ailleurs d'apporter, on l'espère, un peu de légèreté, mais on peut dire aussi que ce type de situation peut générer de vraies tensions, des tensions extrêmes.
Oui, bien entendu, puisque ça cristallise cette période-là de confinement et la promiscuité physique, ça cristallise des tensions, ça vient révéler des tensions. Le temps que vous évoquiez, le temps qu'on a un peu plus pour soi et pour ses proches, nous pousse à rentrer dans la profondeur des relations et nous poser aussi des questions par rapport à notre propre positionnement, nos choix, qu'ils soient personnels, familiaux. Donc c'est un temps d'introspection difficile. Dans ce tourbillon de la vie moderne, on a l'habitude de savoir effréner. C'est difficile de suivre le fil d'Ariane dans le labyrinthe du moi. Vous voyez, c'est pouvoir avoir, se raccrocher à ce qui habituellement nous guide, nous donne des repères. Là, tous les repères sont sur lesquels on tient habituellement, l'activité professionnelle, sociale, les liens, tout ça c'est bouleversé et on est obligé de se recentrer sur quelque chose de plus premier qui est l'unité familiale ou le couple. Et donc on est contraint d'avoir comme révélateur ce confinement qui nous pousse à voir des choses qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir jusque-là. Donc ça peut être des tensions, mais ça peut aussi être des choses très positives, comme de découvrir un peu plus ses enfants, son conjoint, redécouvrir la relation et la reconstruire.
Docteur Leïla Benoît, je disais tout à l'heure, vous continuez de suivre vos patients, vos jeunes patients. Qu'est-ce que ça change, cette crise, dans votre soin, dans votre pratique de la psychiatrie ?
Alors déjà, je dois dire qu'on a la chance en psychiatrie de pouvoir travailler en parlant aux gens. Donc ça nous aide beaucoup pour travailler à distance. Et effectivement, je rejoins ce que disait Anne-Victoire Rousselet. Ça désorganise un petit peu les familles, mais on voit aussi beaucoup d'efforts, c'est-à-dire des ados qui vont se motiver, être là, participer au rendez-vous, qui essaient de s'organiser à la maison pour que les choses se passent bien. Des parents qui prennent sur eux aussi. Donc parfois, on est surpris de voir à quel point les familles prennent sur elles pour faire en sorte que tout se passe bien.
Anne-Victoire Rousselet, vous êtes aussi passée en visioconsultation ?
Oui, tout à fait. J'ai passé en visioconsultation, en dépit de mon scepticisme pour la méthode, je la trouve finalement très riche et différente. On travaille des choses et des aspects différemment, en fait, avec cette téléconsultation. Je rejoins en effet ce que disait la collègue concernant les efforts qui sont faits, et notamment les jeunes qui, quand c'est bien expliqué, arrivent à déployer d'autres formes de ressources, comme la créativité et une part un peu plus grande dans le travail domestique.
Et puis aussi comprendre que tout le monde est dans le même bateau, du coup, ça donne aussi un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe. Alors, des expériences inédites, des expériences parfois inoubliables, avec la parole aujourd'hui à des familles, et des familles nombreuses, et on commence tout de suite avec une maman, c'est Noura que l'on retrouve. Bonjour Noura.
Oui, bonjour.
Vous êtes en ligne de Saint-Denis, donc famille nombreuse, vous avez trois enfants, c'est bien ça ?
C'est ça, oui, trois enfants, bas âge.
Ils ont quel âge ?
Ils ont, alors il y a un bébé de 9 mois, un enfant de 4 ans et bientôt 6 ans.
Donc ça doit bien bouger à la maison. L'école, c'est que pour le plus grand ou c'est aussi pour...
Non, pour les deux petits. Donc le bébé reste dans la chambre, j'essaie de m'organiser au mieux. Je fais cours à mon enfant de 4 ans le matin, donc en attendant que mon enfant de 6 ans s'occupe du bébé, il joue avec lui dans la chambre, donc j'essaie de m'organiser avec le petit, je lui fais cours le matin et ensuite l'après-midi je passe avec le plus grand, donc j'essaie de m'organiser au mieux. C'est vrai que c'est très difficile parce qu'ils ont beaucoup de mal à se concentrer. Mais bon, je reste à peu près une heure ou deux, pas au-delà, hein, je ne peux pas, et puis eux aussi ne tiennent pas.
Parce que tout à l'heure, je disais du temps, on en a, mais quand on vous écoute, du temps, vous n'en avez pas, vous êtes débordée.
Non, je suis débordée en réalité, c'est très difficile parce que déjà, moi, je suis dans un logement, dans un petit logement, c'est un petit F3, donc il n'y a pas beaucoup d'espace pour jouer, tous les enfants dorment dans la même chambre, donc c'est très difficile. Les enfants ne comprennent pas pourquoi il fait beau et qu'ils peuvent pas descendre aller jouer. Et puis ça fait quand même 2 semaines qu'on n'a pas mis le pied dehors. Donc il y a énormément de tensions. Ils sont très énervés.
Est-ce que vous avez des séances d'explication ? Comment ça se passe ? Parce que 9 mois, on a bien compris. 3 mois, c'est compliqué. 6 ans, on peut trouver des mots ?
Oui, bah écoutez, je lui explique qu'il y a un bobo qui court dehors, dans l'air, et que c'est très dangereux de sortir, et pour notre sécurité, qu'il faut rester au chaud, en sécurité à la maison.
Alors, bien sûr.
Il me dit d'accord.
Vous êtes obligée de rester, mais quand même, pour faire les courses, vous faites comment ?
Non, c'est mon mari qui s'occupe des courses. Mon mari va faire les courses, mais c'est compliqué parce que les drives, en tout cas dans mon secteur, sont indisponibles. Du coup, il est obligé de partir le week-end parce que lui continue à travailler. Il travaille dans le télécom. Donc, il part le samedi faire les courses. Il y a énormément de monde. Il n'y a pas de drive. Moi, habituellement, je suis une maman qui est organisée, qui fait des drives. Toutes les 2 semaines, je fais mes grandes courses.
Je vais expliquer à nos auditeurs parce qu'on est beaucoup écoutés en Afrique et en fait, les drives là-bas, ça marche pas encore. Donc, les drives, on commande en fait les courses à distance et puis on arrive et quelqu'un ou nous chargeons la voiture et comme ça, on n'a pas de contact dans le magasin et tout est fait à distance. C'est bien ça.
Tout à fait.
Voilà, j'ai expliqué. Donc, voilà. Ce serait très pratique en cette situation. Et là, s'ils sont débordés, donc c'est votre mari qui va. Et du coup, quand il rentre, est-ce que vous avez peur qu'il vous contamine? Je m'excuse de cette question, elle est directe, mais...
Ah oui, mais totalement. Mais écoutez, moi, j'ai mis un sac plastique devant l'entrée, il pose ses chaussures dessus, je passe un spray désinfectant sur les chaussures, il se déshabille, je prends les vêtements, je les mets en machine directement avec mes gants, et puis lui, il passe à la douche, il embrasse personne, personne ne s'approche de l'entrée. Ensuite, je ramasse mon petit bout de plastique, et puis je passe la javel partout, les poignets, la porte. C'est devenu un automatisme tous les jours, c'est la même chose.
J'ai une question, Noura. Est-ce que vous avez craqué depuis le début?
Oui, franchement, j'ai craqué. Je ne dors pas. Je ne dors vraiment plus comme avant. Je suis très stressée, angoissée. Ben, comme là, cette nuit, j'ai dormi à 5 heures du matin.
Donc, en même temps, vous êtes débordée. En même temps, vous êtes épuisée parce que vous ne dormez pas. Vous ne récupérez pas.
Et puis moi, quand je suis stressée, je suis nerveuse. Et puis, je ne dors pas. Je ne trouve pas le sommeil. Je tourne en rond. Et puis, c'est pas évident. Et puis, il y a énormément de familles dans mon cas, dans mon quartier, qui sont en suroccupation. Donc, nous, on est 5, mais il y en a qui sont 8, 9, et puis des adultes, des ados. Mmh. Donc, les pauvres, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Mais on a la chance d'avoir un collectif au sein du Framoisin, dans mon quartier.
Donc, c'est une grande cité de Saint-Denis.
C'est une grande cité de Saint-Denis, où il y a à peu près 200 personnes sur le collectif. Et puis, les jeunes nous aident beaucoup et on garde un œil sur les personnes âgées. Et sincèrement, c'est une force, vraiment. Ça permet de tenir le coup.
Et ça casse les clichés que certains véhiculent sur votre département. Quand on pointe du doigt un petit peu facilement, au contraire, il y a des solidarités qui s'engagent.
Énormément.
Et en respectant les règles de distance nécessaires pour ne contaminer personne.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est grâce aux jeunes du quartier, qui, eux, ne peuvent pas rester trop longtemps non plus chez eux parce qu'ils sont en suroccupation. Et bien, ils s'occupent de toutes les personnes âgées qui sont au sein du quartier, qui ne peuvent pas sortir parce que tous les magasins sont fermés. Et qu'il y a aussi le distributeur de la poste qui n'est pas alimenté en billets depuis plus de 2 semaines. Donc, on doit partir au centre-ville.
Oui, c'est compliqué.
Et c'est très compliqué. Donc, il y a énormément un élan de solidarité au sein du quartier qui est vraiment une force.
Eh ben merci Noura, ce superbe témoignage, on vous remercie. Et quand vous craquez, je ne sais pas quoi vous dire. Tout à l'heure, on aura un échange justement avec nos deux psys pour non pas donner des recettes magiques parce que ça n'existe pas. Quand on est dans un petit logement avec 3 enfants, on a beau nous dire comment faire, eh ben on sait ce que c'est pas facile. En tout cas, bravo pour toute cette solidarité. Et je le dis, hein, on est à distance, j'ai le droit de le faire. On vous embrasse, Noura. On va donner la parole à un papa, un père à présent. C'est Grégoire qui est avec nous. Grégoire, bonjour.
Bonjour.
Alors racontez-nous comment ça se passe chez vous. La vie, c'est serré chez vous aussi, hein?
Oui, c'est assez serré. Alors nous, on a 4 enfants dans 3 pièces. Alors nous, on dort dans le salon, hein. Il y a 2 enfants dans chaque pièce qui sont assez petits, un peu les mêmes âges que les enfants de Noura, un peu La première a bientôt 6 ans, la deuxième bientôt 5 ans, le troisième, il a lui bientôt 3 ans, et la petite dernière a 1 an et demi. Voilà.
Alors, vous, c'est quoi l'option? C'est plutôt l'organisation, on a entendu Noura, même si elle est épuisée, elle tient bien son petit monde. Vous, c'est plutôt l'organisation ou plutôt le laisser faire?
Alors, nous, on a une organisation prévue, mais on la tient pas.
Il y a la théorie et la pratique, c'est ça.
C'est ça, on la tient comme ci, comme ça. Enfin, par exemple, moi, je dois sortir les 2 petits le matin entre 9h et 9h30 parce qu'on a une petite cour en bas de notre immeuble dans laquelle on sort, dans laquelle on croise personne. Enfin, on est les seuls enfants de notre immeuble. On est à Paris dans le 18e arrondissement. Hein. Et donc, on fait 15 mètres carrés donc pour les aérer un peu. On fait ça et là je l'ai fait, je crois que c'était le seul programme et en 2 semaines je l'ai fait 2 fois. Hein,
donc faut vous reprendre un petit peu, c'est ça?
C'est ça, on fait un peu comme on peut, mais écoutez, ça se passe plutôt bien.
Et pour les explications aux enfants, ils comprennent ce qui se passe?
Ils comprennent bien, oui. Les deux petits, en fait j'étais admiratif de l'élasticité en fait des enfants qui acceptent assez bien la situation. Les deux plus grandes se sont adaptées, même si elles posent des questions de temps en temps. Quand est-ce que ce sera fini? Et c'est vrai que parfois, il y a deux jours, je lui ai dit à la plus grande ou à sa petite sœur, je ne sais plus, tu te rends compte que ça fait 2 semaines qu'on n'est pas allé au parc. Et elle me dit, ah oui, tiens, j'avais pas remarqué, quoi. Donc, en fait, ils sont assez élastiques, je trouve, dans leur caractère pour, voilà, accepter assez bien la situation. Après, le problème, c'est qu'ils sont pas habitués à être les uns avec les autres si longtemps, quoi.
Ouais. Voilà. Donc des relations qui sont en train de découvrir. Dans votre voix, on entend un joli sourire. C'est parce que vous êtes en ligne. Vous avez des moments où ça va moins bien ou vous tenez bien sur la longueur?
A priori, on tient bien sur la longueur. Vendredi dernier, j'ai envie de vous dire, c'était un peu dur le soir. C'était un peu dur le soir. Voilà. Mais ça va. Globalement, ça va. Ça va. Mais en plus, moi, je travaille à la maison en ce moment et bon, j'espère que mon patron m'écoute pas trop, mais c'est vrai que le moment est un peu plus calme. Voilà, on a un peu plus de temps. Du coup, c'est vrai que moi, je passe beaucoup plus de temps avec mes enfants. Donc, voilà, je vois qu'il y a quelque chose mal profite.
Vous voyez ça comme un joyeux bazar?
Voilà, bah, parfois, oui. Alors après, c'est pas trop le bazar non plus, mais c'est vrai que parfois, bon, ça va. On sait que nous aussi, il faut être assez élastique et pas se.
Oubliez la rigidité en ce moment. Merci beaucoup, Grégoire. Et on va prendre une autre maman qui doit bien avoir aussi elle la tête sous l'eau. Stéphanie avec nous. Stéphanie, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous aussi, famille nombreuse?
Oui, 4 enfants. Presque pareil que Grégoire. Donc l'aîné a 6 ans et demi. Ensuite, j'ai 4 ans et demi, 3 ans et 1 an.
Comme on dit, vous avez bien travaillé. Comment est-ce que vous vous organisez alors?
Alors, on est assez organisé, mais c'est un peu notre tempérament aussi, et mon mari et moi. En fait, on a déjà la grande chance d'avoir déménagé avant le confinement. On était dans un 3 pièces avec 4 enfants, 75 mètres carrés, ça aurait été l'enfer. Et alors que là, on est dans un 134 mètres carrés.
Oui, donc vous avez de l'espace.
On a
là, c'est bon.
Cinq chambres même.
Les enfants peuvent courir dans l'appartement.
Un peu, et aussi on a la chance d'avoir une cour en bas de la résidence. Ah oui. Donc mon mari, il sort une fois par après-midi en général. Enfin, il est en télétravail, mais il s'arrange pour les sortir. Ils font du vélo, de la drésienne en bas. Donc ça les aère et c'est une grande chance.
Est-ce que les enfants s'interrogent sur la durée de ce qu'ils sont en train de vivre? Combien de temps va durer ce confinement ou ça ne les préoccupe pas? Ils vivent au jour le jour?
Ils vivent au jour le jour. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ne posent pas cette question. Par contre, ils me demandent, c'est vrai, quand est-ce qu'on va retourner dans le jardin de notre grand-mère ou des questions comme ça, ou quand est-ce qu'on ira voir un tel. Mais c'est pas, du coup, je peux pas leur donner de réponse claire. Mais j'ai l'impression qu'ils vivent quand même plutôt bien la situation.
Et vous prenez des précautions particulières pour ne pas leur transmettre l'anxiété? Par exemple, vous faites attention à la télévision, des choses comme ça?
Ah oui, de toute façon, eux, ils regardent pas la télévision. Mmh. Alors nous, on fait attention aussi, l'ordinateur est dans une pièce vraiment dédiée. Enfin, en fait, on a une pièce bureau dans laquelle mon mari peut s'isoler pour travailler. Mmh. Et eux, ils n'ont pas accès à tout ça. Donc ça passe vraiment par nous, tout ce qui est information.
On a parlé des enfants, on a beaucoup parlé des enfants sans rentrer dans votre intimité. C'est pas compliqué toute la journée avec son époux, 24/24?
Alors moi, en fait, je me suis arrêtée de travailler à la naissance du premier, donc j'ai fait le choix d'être à la maison avec mes enfants. Donc en temps normal, je les vois déjà beaucoup.
Je parle pas des enfants justement, c'est le changement avec l'époux, aussi, parce que ça change les choses.
Oui, et ben je trouve que c'est un changement en bien. Moi, je suis vraiment très heureuse de cette période, en fait. Même si c'est beaucoup de fatigue, j'ai besoin aussi de mes moments. C'est-à-dire, par exemple, le week-end dernier, j'ai senti que je craquais, ou j'ai des moments dans l'après-midi où, voilà, il y a un trop-plein, et j'ai besoin de me retrouver seule un quart d'heure, une demi-heure pour me ressourcer. Ça, j'en ai vraiment besoin, et je me rends compte que si j'y arrive pas, c'est dur. Mais ça, mon mari comprend. Et ça, à ce moment-là, il s'en occupe un peu et puis du coup, ça va mieux. Mais sinon, le fait de voir plus souvent mon mari, au contraire, moi, je trouve que c'est agréable. Enfin, je le vois, il fait des pauses de temps en temps, on le voit au déjeuner, il m'aide pour s'il me rend des services.
C'est ça, la répartition des tâches, c'est faite naturellement?
On en a discuté. D'accord. Et puis en fait, globalement, je m'occupe de préparer l'école des enfants. Donc la veille au soir, j'imprime leurs feuilles, je me penche là-dessus, donc ça me prend pas mal de temps. Je m'occupe du linge, lui il s'occupe de la cuisine beaucoup, il me prépare des choses on essaie de faire des choses qui durent 3 jours, des soupes, des grosses purées,
l'organisation quand même, hein.
Voilà, on s'arrête pas. Et puis on essaye aussi de communiquer un peu avec la famille, donc ça c'est plus le week-end. Le ménage, on avait une femme de ménage, on n'en a plus. On essaye de faire ça le week-end en associant les enfants. Sinon, ben, moi, je trouve que ça se passe plutôt bien.
Merci beaucoup, Stéphanie, et bon courage pour la suite. Hein. On vous embrasse, vous aussi. On vous retrouve, docteur Leïla Benoît. On a entendu ces témoignages, on entend plusieurs choses. D'abord, une grosse réorganisation. On entend que les enfants le vivent plutôt bien. Et puis, une pudeur aussi, je trouve, par rapport à ces mamans ou papas qui disent qu'il leur arrive de craquer, mais qui n'en font pas, finalement, docteur Benoît, tout un plat.
Oui, tout à fait. On voit qu'on a des situations qui sont toutes touchantes et puis avec des contextes sociaux qui sont quand même différents, donc il faut le prendre en compte. Moi, ce que j'entends, c'est quand même beaucoup de tendresse, beaucoup de plaisir quand même malgré tout à se retrouver ensemble en famille. Je pense que ce qui pourrait être un point commun à tous qui peut servir, c'est vraiment que les enfants effectivement vivent au jour le jour, donc ils ne sont pas inquiets de ce qui se passera dans quelques temps autant que les adultes. Par contre, quelque chose qui les rassure beaucoup, c'est la prévisibilité, c'est-à-dire savoir ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va arriver après. Et ça, pour les trois situations, autant celle de Noura, de Grégoire, puis la troisième, avoir un petit planning, par exemple, visuel, avec des dessins, des coloriages que l'enfant peut avoir fait lui-même, ça permet de savoir aussi qu'est-ce qui se passe après la balade du matin. Quand est-ce qu'on fait le moment où on va faire un petit peu d'activité physique. Et ça, même pour Noura, qui a très peu d'espace, quelque chose qui rassure beaucoup les enfants, c'est de voir sur ce planning le moment où ils vont pouvoir jouer. Et puis, on peut transformer les pièces aussi, c'est-à-dire qu'on va pousser le canapé, on met les coussins par terre, et là, on peut jouer à faire des galipettes.
Petite cabane pour se faire une petite maison dans la maison.
Exactement. Et les enfants prendront un vrai plaisir à savoir que, par exemple, tous les jours à 4 heures, c'est le moment des galipettes ou le moment de la cabane. Et à ce moment-là, le salon se transforme. Et après, on le retransforme comme avant. C'est vraiment quelque chose qui les rassure, cette régularité, et qui leur fait plaisir. Ça devient un jeu auquel ils peuvent participer. Et de la même manière, quelque chose qui risque de mettre un petit peu tout le monde en épuisement, en surcharge, c'est de penser qu'à la maison, on doit travailler autant que si on était à l'école. Et ça, c'est pas possible parce que c'est le métier des enfants. Et qu'en fait, on ne peut pas tout faire.
On est déjà parents.
Exactement. Et donc, il suffit de travailler, je ne sais pas, une heure, deux heures, pas plus, et de savoir qu'il y aura plein d'autres petites activités qui font partie de la maison, comme le moment où on prépare le repas, le moment où on met la table, le moment où on débarrasse, faire la vaisselle, le ménage, etc. Tout ça, ça fait des activités qui seront mises dans l'emploi du temps. On sait qu'à midi 15, c'est une tâche, c'est une activité comme une autre dans la journée.
Contribution, donc s'adapter, le maître mot, Anne-Victoire Rousselet, bien évidemment, pas de jugement, pas de conseil impossible à tenir, il n'y avait pas de parents ni d'enfants parfaits avant, il n'y a pas de raison qu'il y ait des parents et des enfants parfaits en période de crise.
Oui, c'est ça. Ça, c'est très important parce que, en effet, les parents peuvent se mettre une forme de pression inutile qui ne va pas être fonctionnelle, qui va plutôt les priver de leurs ressources et les rendre plutôt anxieux. C'est une gestion au jour le jour du quotidien avec comme objectif que on passe de bons moments ou de les plus agréables possibles. Donc la question qui est de faire le travail de l'enseignant, faire son propre travail, les tâches domestiques, ça correspond quand même à un temps complet, enfin même plus que complet, à trois temps complets, à 300% d'activité. Donc c'est important de déculpabiliser les parents qui ne peuvent pas tout faire parce qu'en réalité, ils ne pourront pas tout faire. Donc la question est plutôt de prioriser. Comme disait le docteur Benoît, de donner une routine, un rythme aux enfants auxquels ils sont particulièrement sensibles et qui les détend, et donner aussi un espace pour l'expression, s'autoriser à dire aussi, tu sais, aussi pour moi c'est nouveau ce qui est en train de se passer, et donc on va s'ajuster ensemble. Et donc à ce moment-là, l'enfant qui va être dans le partage des tâches et dans le partage de la situation va peut-être être beaucoup moins dans l'opposition et davantage dans la compliance et l'observance des règles de la maison.
Et avoir de nouvelles ressources pour s'autonomiser.
Exactement, parce que tout ce qu'on décrit, les tâches ménagères, c'est d'éducation aussi.
Tout à fait, on est en train d'apprendre à la maison aussi.
On apprend beaucoup de choses à la maison. les recettes de cuisine, faire des choses avec du bricolage avec papa ou avec maman, de la cuisine, du ménage, tout ça c'est un apprentissage fondamental pour les enfants. Donc même si les tables de multiplication sont pas sues comme il faudrait peut-être, ou parfaitement, on laissera l'enseignant peaufiner le travail, et le travail d'éducateur de parents qui est premier peut être investi totalement.
D'autres témoignages tout de suite. On va prendre en ligne des appels d'auditrices.
Priorité santé sur RFI.
Et pour commencer, on va traverser l'Atlantique pour rejoindre le Canada, Toronto, dans l'Ontario. Bonjour Ingrid.
Oui, bonjour Caroline.
Il est tôt chez vous, non?
Oui.
est-ce que le soleil s'est levé sur Toronto?
Non, pas encore.
Alors racontez-nous comment ça se passe chez vous, situation de confinement, situation de travail, comment ça se passe en ce moment dans cette province canadienne?
Bon, du point de vue des écoles, tout s'est arrêté. Mm-hmm. Et il y a pas mal de parents aussi qui n'ont pas le choix de rester confinés. Et aussi, il y a des parents qui se disent, ben, avec les enfants à la maison, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, je pense que c'est le moment pour tout le monde de devenir très créatif en ce moment.
Et en ce moment, chez vous, à la maison, il y a combien de personnes?
Je vis avec mes deux sœurs et deux de mes filles, et mes deux filles alors.
Et alors, qui travaille en ce moment, qui sort en ce moment?
Ce sont mes sœurs parce qu'elles sont dans le domaine de la santé, mm-hmm. et particulièrement dans les maisons de retraite. Mm-hmm. Et quelque part, moi, ça m'inquiète parce que finalement, c'est elle la plus exposée.
Your radio, CIUC 89.5, the sound of your city.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
C'est l'heure de la pépite. Et on accueille. Bon, c'est Christophe Arnaud qui fait la pépite.
Ah, mais bonjour. Je suis en éclairage.
Délégué. Je viens avec Caracal.
Peut-être délégué. Faut dire que c'est un nom. C'est une de nos envies avec Lorraine de switcher un matin de chronique.
Si tu veux,
bon, comment ça va, vous? Vous vous souvenez de la chanson vietnamienne? Exactement, la chanson vietnamienne. Vous avez beaucoup aimé cette chanson. On va la réécouter, qui nous rappelle les bons gestes. Les bons gestes contre...
C'était qui qu'on a enlevé? Jacques Baudouin.
Jacques Baudouin, exactement.
Eh oui, je ne connais que ça.
T'étais né, ça passe de la culture.
C'était le tube de ton enfance.
Mais c'est ça, ouais.
Bon, alors le tube vietnamien, vous en souvenez ou pas, le tube vietnamien?
Oui, oui.
Les bons gestes. Bon, alors sachez que c'est pas la seule chanson. Voilà, on va la réécouter quand même.
Non.
Non.
Vas-y.
La seule chanson, autre conséquence de ce virus, regardez ce qu'a calculé le site Quartz. Il y a déjà 65 chansons disponibles avec le titre coronavirus. Alors, premier exemple, écoutez, ça réveille. De Singapour qui a donc sorti un mini-album qui a pour titre Coronavirus. Alors disque instrumental, donc on peut estimer que c'est un peu opportuniste, mais d'autres ont des paroles qui parlent du virus, comme par exemple le désormais célèbre Ramsès Athem. C'est un comédien argentin. Alors, attention, il y a une analogie dans le texte. Il fait un lien entre le coronavirus et la toxicité de certaines de nos relations. Alors, pour l'instant, c'est pas un tube. On va lui donner un petit coup de main ce matin. Il est qu'à 3000 écoutes, lui, sur YouTube. Mais d'autres ont vraiment du succès. Ce que vous allez découvrir ce matin est déjà un tube. C'est la chanson de Mister Cumbia qui, lui, évidemment, nous rappelle qu'il faut se laver les mains. Écoutez. Quand je vous dis que c'est déjà un tube, 600 000 écoutes rien que sur YouTube, c'est un groupe mexicain.
Vous la veste, combien?
Les Français, non, j'en ai pas encore trouvé.
Les Français
qui veulent s'y mettre. Alors, lui a l'habitude de faire des chansons sur l'actualité, donc c'est peut-être une idée de diversification pour nous, les amis. Un humour qui n'est pas toujours accepté au Mexique. Ça fait quand même un peu polémique parce que le Mexique est aussi touché par le virus et ça fait pas rire tout le monde là-bas.
Voilà, il y a tous les hits qui défilent là derrière.
Là, 65 chansons, c'est notre playlist du week-end. Et stop, on met à jour ta playlist.
Pourquoi pas.
Bonjour, ici Sylvie Bérard. Je vous envoie cette capsule depuis Peterborough, où je suis seule dans ma maison avec mon chat Tom. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur la situation actuelle, sur ma situation actuelle. Et puis à la fin, je vais vous faire quelques suggestions de lecture pour ces jours de confinement. Je vous avouerai que, en tant que spécialiste de la littérature et amoureuse de la lecture, j'ai vécu par le truchement des livres toutes les situations possibles en me mettant dans la tête des personnages. Pourtant, rien ne m'avait préparé à ça. Je suis pas la seule, rien ne nous avait préparé à ça. Je m'attendais pas à vivre cette espèce de temps flou. J'utilise ce terme-là en pensant à mon amie Sarah Doak de Belgique, qui a écrit un très beau texte cette semaine où elle qualifie la crise actuelle d'apocalypse molle, c'est-à-dire non pas une apocalypse de zombies, là, comme on se les imagine, comme on voit circuler, mais une apocalypse sans lutte, sans contour, peut-être celui, le contour de notre maison. Il me vient plein d'images de science-fiction, en fait, ces jours-ci. J'aime beaucoup la science-fiction normalement, mais je suis peut-être pas la seule à avoir l'impression de vivre en pleine histoire de science-fiction. Juste avant que l'Université Trent, où j'enseigne normalement, ferme pour de bon cette semaine, donc après avoir annulé ses cours la semaine d'avant, je suis allée récupérer des livres à mon bureau, et puis je me suis retrouvée sur un campus qui était complètement vide. Il ventait très fort ce jour-là, puis il y avait une ambiance, je dirais pas de fin du monde, mais de monde post-humanité, d'après l'humanité. C'est juste s'il n'y avait pas des virevoltants. Vous savez, là, c'est, on voit ça dans les films western, les plantes qui roulent en petites boules dans le désert. Dans la ville de Peterborough, c'était aussi pas mal tranquille. Puis là, je suis allée faire une épicerie, puis j'ai compris où tout le monde était. Tout le monde était occupé à s'acheter des aliments non périssables. Puis tout le monde errait aussi un peu dans des rangées à moitié vides, où il restait juste les produits hors de prix, ou alors les produits que personne n'aimait vraiment pas. Ça, c'est une super bonne étude de marché. Hein. En passant, compagnie d'alimentation, si personne n'a voulu de votre soupe en boîte ces jours-ci, vous devriez vraiment revoir votre recette. Il y avait aussi l'essence. Je parle au passé parce que je me suis pas éloignée de la maison depuis vendredi dernier. L'essence dont le prix est redescendu à un niveau qu'on n'a pas vu depuis le début de ce siècle-ci. Là. On croit presque halluciner en voyant les affiches. Et puis, en même temps, il y a mon université qui s'est mise au cours à distance et au télétravail. Tout le monde est soudain capable de travailler de la maison, ou presque tout le monde, en fait, sauf les services essentiels. Puis encore une fois, j'ai l'impression d'évoluer dans un roman d'anticipation. Et puis là, le sentiment se prolonge, évidemment, quand je lis, je regarde les nouvelles en ligne, comme tout le monde. Donc, c'est peut-être ça, en ce moment, mon sentiment dominant, un sentiment d'irréalité, puis ben, je suis sûre que je suis pas la seule, en fait. J'ai le sentiment d'être dans une des histoires que je pourrais très bien écrire, puis en même temps, je me dis, non, je suis pas une auteure de documentaire, mais une auteure de fiction, et j'aimerais vraiment plus que ce genre d'histoire-là demeure fictive. Donc, pour terminer, j'aimerais vous faire trois recommandations de lecture qui sont, à mon avis, de circonstance. Premièrement, « Les corps extraterrestres » de Pierre-Luc Landry. Ce roman se passe dans deux temps parallèles contemporains inquiétants. D'un côté, un hiver où le froid ne cesse pas, et de l'autre côté, un hiver où il règne une vague de chaleur sans précédent. Et donc, ces deux temps-là vont se rejoindre par l'entremise de deux personnages. Il me semble que c'est une bonne lecture pour rejoindre le sentiment d'irréalité dont je parlais plus tôt. Si vous le cherchez, ce roman a été publié par les éditions Druide en 2015. Un autre roman de synthèse de Caroline George, dont on a beaucoup parlé, un roman où la narratrice agoraphobe, qui vit dans sa tour d'ivoire depuis plusieurs années, doit soudain ressortir pour prendre contact avec sa mère qui se meurt à l'hôpital. Évidemment, j'ai pensé à ce livre-là que j'aime beaucoup parce que le thème du confinement peut bien sûr faire écho à la période actuelle. Donc, ce roman a paru chez Alto en 2017. Et puis enfin, mais bon, il y a plein d'autres livres que je pourrais vous recommander. Il y a le roman Aquarium de J.D. Curtness. Alors, ce roman-là évoque directement une épidémie qui sévit pendant que le personnage principal est confiné dans un bateau d'exploration scientifique dans le Grand Nord. Donc, je pense qu'on ne peut pas trouver de métaphore plus évidente de la situation actuelle. Si vous le cherchez encore une fois, ce roman a été publié en 2019 à l'instant même. Et en fait, ces trois romans-là, vous pouvez les avoir en édition électronique, donc en édition numérique. Alors, ça peut être pratique à l'heure actuelle. Ces romans-là vous changeront peut-être pas complètement les idées, mais peut-être qu'ils vont vous aider à vous sentir moins seul. Alors voilà. C'était ma contribution sur la situation actuelle. Merci.
de nuit. Les salles de conférence, évitons les attroupements.
Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les États-Unis se préparent au pire. Les chiffres sont alarmants. 140 000 cas avérés, un record à travers le monde. 2 500 morts, avec des responsables de l'administration américaine qui évoquent désormais des scénarios noirs et un bilan entre 100 000 et 200 000 victimes. Certaines villes sont particulièrement touchées, comme New York, où un hôpital de campagne a tout simplement été installé au cœur même de Central Park. La première puissance mondiale se retrouve confrontée à un ennemi invisible qui met à jour ses faiblesses. À commencer par un système de santé dont sont exclus 28 millions d'Américains. Donald Trump, lui, sonne la mobilisation générale, communique à tout va, reste fort du soutien des Américains malgré ces changements de ton et de stratégie. Alors que doivent craindre les États-Unis ? Comment la puissance américaine fait face ? Quelle est la stratégie de Donald Trump face à la maladie ? Les États-Unis se préparent à la catastrophe, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous avez publié « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale ». SRAS, crise sanitaire, aux éditions Lavoisier. Anne Toulouse, vous êtes journaliste franco-américaine, vous vivez aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Je rappelle ce soir votre ouvrage, Dans la tête de Donald Trump, publié aux éditions Stock. Nicole Bacharan est avec nous ce soir. Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis et votre dernier ouvrage, Le Monde selon Trump, est publié aux éditions Talendier. Enfin, Thomas Snegaroff, historien, nous rejoindra dans quelques instants. On va commencer par cette phrase signée Donald Trump. Si nous arrivons, c'est lui qui parle, hein, si nous arrivons déjà à limiter le nombre de morts à 100 000, nous aurons fait du très bon travail. Est-ce que Donald Trump, Anne-Claude Crémieux, a raison ? On est sur ces chiffres-là pour les États-Unis ?
Alors, ils le reconnaissent eux-mêmes. Il y a des scénarios avec des projections dont, effectivement, ils ne sont pas capables de savoir quelle va être la réalité. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'il y a un réel changement de stratégie, changement de ton, en fait. Il a adopté la communication de crise. Et la communication de crise, c'est de dire à son peuple, préparez-vous et préparez-vous au pire. Mmh. Et ça, c'est vraiment un changement parce qu'au départ, effectivement, il était complètement dans l'inverse de la communication, c'est-à-dire qu'au contraire, il assurait que le virus n'allait pas rentrer et il s'est mis complètement en porte-à-faux par rapport à son administration qui lui disait mais on ne peut pas dire ça parce que effectivement il faut qu'on se prépare au pire.
il prépare son peuple, dit Anne-Claude Crémieux, à une crise sanitaire majeure. On parle de 100 000 victimes. Et je le répète, c'est Donald Trump qui dit, si on y arrive, ce sera un good job.
Oui, mais ça, c'est du Trump. C'est-à-dire qu'il met la barre très haut, ce qui fait que si on arrive à un chiffre plus bas, il aura réussi. Mais ce que je trouve intéressant dans la stratégie de Donald Trump, c'est que ça a été en deux temps. Il a d'abord bétonné l'aspect économique. Parce qu'aux États-Unis, ce qui a frappé d'abord, c'est la catastrophe économique. Parce que l'économie, elle frappe tout le monde. On sait que tout le monde va trinquer sur l'économie. Alors que le coronavirus, on a l'effet d'optique avec New York, qui est la ville la plus connue à l'étranger, qui est cette énorme métropole. Mais si vous êtes au fin fond du Montana ou du Wyoming, ça paraît moins présent, le coronavirus. D'ailleurs, il n'y a pratiquement pas de cas. Mais la crise économique,
elle touche
pas
tout le monde.
Elle est là. Et donc, il y a une stratégie en deux temps qui a été d'abord de bétonner l'économie. D'ailleurs, au début, moi, ça me frappait beaucoup. Je venais d'arriver des États-Unis. Ici, je voyais sur les plateaux de télévision, il y avait que des médecins aux États-Unis, il y avait que des économistes. Mm-hmm. Une fois que ça a été assuré, on a dit, oui, voilà, ça va être la catastrophe, là, ça va être sérieux. Ce qui fait qu'avançant ce chiffre de 100 000 ou de 200 000 qui a été jeté, que, d'ailleurs, qu'on prend un peu à tort parce que cela peut aller jusqu'à 100 et 200 000. Ça ne veut pas dire qu'on peut y aller.
Vous avez raison. Anthony Fauci, qui est donc le conseiller santé de Donald Trump, évoque des projections de 100 000 à 200 000 morts. Et il a cette phrase, il donne le pire des scénarios en général, la réalité se situe toujours au milieu.
Oui, au milieu et même peut-être en dessous. Donc je pense que cette double stratégie est ce qui explique pour l'instant, ça ne va peut-être pas durer, mais la popularité de Donald Trump qui n'a pas eu d'égal depuis le début de son mandat. Puisqu'en ce moment, le différentiel entre ceux qui sont favorables à son attitude et sa popularité et son antipopularité est de 2%, ce qui est dans la marge d'erreur statistique. C'est-à-dire que pour la première fois, il atteint une cote de popularité qui est presque égale à son impopularité. Mmh.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les États-Unis se préparent au pire. Les chiffres sont alarmants. 140 000 cas avérés, un record à travers le monde. 2 500 morts, avec des responsables de l'administration américaine qui évoquent désormais des scénarios noirs et un bilan entre 100 000 et 200 000 victimes. Certaines villes sont particulièrement touchées, comme New York, où un hôpital de campagne a tout simplement été installé au cœur même de Central Park. La première puissance mondiale se retrouve confrontée à un ennemi invisible qui met à jour ses faiblesses. À commencer par un système de santé dont sont exclus 28 millions d'Américains. Donald Trump, lui, sonne la mobilisation générale, communique à tout va, reste fort du soutien des Américains malgré ces changements de ton et de stratégie. Alors que doivent craindre les États-Unis ? Comment la puissance américaine fait face ? Quelle est la stratégie de Donald Trump face à la maladie ? Les États-Unis se préparent à la catastrophe, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous avez publié « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale ». SRAS, crise sanitaire, aux éditions Lavoisienne, Toulouse. Vous êtes journaliste franco-américaine, vous vivez aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Je rappelle ce soir votre ouvrage « Dans la tête de Donald Trump », publié aux éditions Stock. Nicole Bacharan est avec nous ce soir. Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis et votre dernier ouvrage « Le monde selon Trump » est publié aux éditions Talendier. Enfin, Thomas Snegaroff, historien, nous rejoindra dans quelques instants. On va commencer par cette phrase signé Donald Trump. Si nous arrivons, c'est lui qui parle, hein, si nous arrivons déjà à limiter le nombre de morts à 100 000, nous aurons fait du très bon travail. Est-ce que Donald Trump, Anne-Claude Crémieux, a raison ? On est sur ces chiffres-là pour les États-Unis ?
Alors, ils le reconnaissent eux-mêmes. Il y a des scénarios avec des projections dont, effectivement, ils ne sont pas capables de savoir quelle va être la réalité. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'il y a un réel changement de stratégie, changement de ton. En fait, il a adopté la communication de crise. Et la communication de crise, c'est de dire à son peuple, préparez-vous et préparez-vous au pire. Et ça, c'est vraiment un changement parce qu'au départ, effectivement, il était complètement dans l'inverse de la communication, c'est-à-dire qu'au contraire, il assurait que le virus n'allait pas rentrer et il s'est mis complètement en porte-à-faux par rapport à son administration qui lui disait « mais on ne peut pas dire ça parce que effectivement, il faut qu'on se prépare au pire ».
il prépare son peuple, dit Anne-Claude Crémieux, à une crise sanitaire majeure. On parle de 100 000 victimes. Et je le répète, c'est Donald Trump qui dit, si on y arrive, ce sera un good job.
Oui, mais ça, c'est du Trump. C'est-à-dire qu'il met la barre très haut, ce qui fait que si on arrive à un chiffre plus bas, il aura réussi. Mais ce que je trouve intéressant dans la stratégie de Donald Trump, c'est que ça a été en deux temps. Il a d'abord bétonné l'aspect économique. Parce qu'aux États-Unis, ce qui a frappé d'abord, c'est la catastrophe économique. Parce que l'économie, elle frappe tout le monde. On sait que tout le monde va trinquer sur l'économie. Alors que le coronavirus, on a l'effet d'optique avec New York, qui est la ville la plus connue à l'étranger, qui est cette énorme métropole. Mais si vous êtes au fin fond du Montana ou du Wyoming, ça paraît moins présent, le coronavirus. D'ailleurs, il n'y a pratiquement pas de cas. Mais la crise économique, elle est là. Elle est là. Et donc, il y a eu une stratégie en deux temps qui a été d'abord de bétonner l'économie. D'ailleurs, au début, moi, ça me frappait beaucoup. Je venais d'arriver des États-Unis. Ici, je voyais sur les plateaux de télévision, il y avait que des médecins aux États-Unis, il y avait que des économistes. Mm-hmm. Une fois que ça a été assuré, on a dit, oui, voilà, ça va être la catastrophe, là, ça va être sérieux. Ce qui fait qu'avançant ce chiffre de 100 000 ou de 200 000 qui a été jeté, que, d'ailleurs, qu'on prend un peu à tort, parce que cela peut aller jusqu'à 100 et 200 000. Ça ne veut pas dire qu'on peut y aller.
Vous avez raison. Anthony Fauci, qui est donc le conseiller santé de Donald Trump, évoque des projections de 100 000 à 200 000 morts. Et il a cette phrase, il donne le pire des scénarios en général, la réalité se situe toujours au milieu.
Oui, au milieu et même peut-être en dessous. Donc je pense que cette double stratégie est ce qui explique pour l'instant, ça ne va peut-être pas durer, mais la popularité de Donald Trump qui n'a pas eu d'égal depuis le début de son mandat, puisqu'en ce moment le différentiel entre ceux qui sont favorables à son attitude et sa popularité et son antipopularité est de 2%, ce qui est dans la marge d'erreur statistique. C'est-à-dire que pour la première fois, il atteint une cote de popularité qui est presque égale à son impopularité.
Confinement, bah ouais, je dis confinement, bah ouais, je suis dans mon confinement, bah ouais, je dis confinement, bah ouais, l'État a bombé le torse, ah ouais, je dis confinement, bah ouais, les poches remplies de gel, ah ouais, je dis confinement, bah ouais, collé, ambiancé, chez moi je dois rester, dans mon 36 mètres carrés. Comment on va gérer? Frigo en PLS, dans les rayons c'est la hesse. Oui, collé, ambiancé, juste toi tu vas tousser. Pas tes PQ de haut en bas, j'ai tout le temps d'avoir le temps. Dja dja veut que je sorte le chat, ils me disent te plaît, j'ai dit non. J'suis calé, calé, rien faire. Dehors pas de gens, y'a air. J'suis calé, calé, rien faire. Dehors pas de gens, y'a air. Confinement, bah ouais. Je dis confinement, bah ouais. J'suis dans mon confinement, bah ouais. Je dis confinement, bah ouais. Les mecs ont fermé les portes, ah ouais. Je dis confinement, bah ouais. Les poches remplies de gel, ah ouais. Je dis confinement, bah ouais. Il est midi, tu titubes. Tu fous rien comme d'habitude. Tu connais, connais ma vie. Mes mimiques et mes stories. Écoute, il faut checker. Parler trop près de tuer. Mais pourquoi se fâcher? Le courant, ça peut tuer.
Oui, le mot distance peut dire merci au coronavirus parce que grâce à cette petite bestiole de 400 nanomètres de diamètre, distance est rapprochée de nous, de nos vies, alors que tous les médecins nous recommandent de nous éloigner les uns des autres à cause du coronavirus. Il faut éviter les rassemblements, la promiscuité, il faut prendre ses distances, respecter la distance de sécurité pour éviter postillons et petites particules sur lesquelles se cache le coronavirus. Distance, c'est le mot à la mode, mes amis. On s'éloigne des autres pour se confiner avec les siens dans quelques mètres carrés. Distance, c'est le mot du jour, le mot des jours de confinement et de couvre-feu. Attends, mon ami, si tu es encore dehors à 23 heures alors qu'il y a couvre-feu, t'as intérêt à courir très très vite pour maintenir ton crâne et ton dos à très bonne distance des matraques et des forces de l'ordre et surtout de leurs chicotes en peau d'hippopotame. Aujourd'hui, en plein dans cette crise du Covid-19, mais tout le monde n'a que le mot distance à l'esprit. Ainsi, devant l'ampleur des dégâts du coronavirus à travers la planète, mais nous regardons effarés tel dirigeant prendre ses distances d'avec ses propres déclarations d'il y a à peine quelques semaines quand il faisait le kéké, quand il croyait que son pays était à l'abri, à bonne distance de la pandémie. La distance, il n'y a plus que ça de bon aujourd'hui. On évite les rassemblements et on fait tout de loin, très très loin. À commencer par nous, oui, ici à la radio. Vous m'entendez là, vous entendez ma voix comme si j'étais à côté de vous, mais je suis loin, à des milliers de kilomètres, à bonne distance. Et ça n'a pas commencé avec le Covid-19, hein. C'est comme comme ça depuis les débuts de la radio. Et avec cette crise sanitaire, non seulement nous sommes loin de vous qui nous écoutez là, mais en plus, nous sommes à bonne distance les uns des autres ici, de ce côté-ci du micro. Eh oui, là où nous étions côte à côte, coude contre coude dans le studio, aujourd'hui, chacun a pris sa distance de sécurité, hein. Bah oui, chacun est chez lui, loin, en télétravail, du grec télé qui signifie loin. Les correspondants télé sont obligés de bien ranger leur salon pour le montrer aux caméras, au monde entier sous son meilleur profil, avec œuvres d'art sur les murs et livres plein la bibliothèque. C'est l'ère des télécommunications, des téléchargements. On travaille par téléphone, on envoie des documents par télécopie, tu dis bonjour aux impôts par télédéclaration, et si tu ne te sens pas bien après ta déclaration, mais ton médecin peut te faire un télédiagnostic. Tu fais tes courses par téléshopping, assis dans ton salon, confiné devant ta télévision, télécommande à la main. Avec Internet, on avait déjà pris nos distances bien avant Covid-19, qui est juste venu distendre toutes ces distances entre nous. E-conférence, e-learning, e-banking, e-business, tout était déjà e-quelque chose. Carte bancaire à paiement sans contact, monnaie virtuelle, drone, réseaux sociaux, tout se faisait de loin, sans contact, de loin, à distance. Et comment ça se fait qu'on ne soit pas prêt aujourd'hui quand la bise coronavirus fut venue? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous gagnerons.
D'abord tu sors, c'est un vrai cauchemar. T'es seul dans le carrefour, c'est bizarre. Et t'entends à chaque fois que tu respires la radio qui t'annonce le pire. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord.